Alfred de Musset, Margot. Dans une grande et gothique maison, rue du Perche au Marais, habitait en 1804 une vieille dame connue et aimée de tout le quartier. Elle s'appelait Madame Doradour. C'était une femme du temps passé, non pas de la cour, mais de la bonne bourgeoisie, riche, dévote, gaie et charitable. Elle menait une vie très retirée. Sa seule occupation était de faire l'aumône et de jouer au boston avec ses voisins. On dînait chez elle à 2 heures, on soupait à 9. Elle ne sortait guère que pour aller à l'église et faire quelquefois, en revenant, un tour à la place royale. Bref, elle avait conservé les mœurs et à peu près le costume de son temps, ne se souciant que médiocrement d'une autre, lisant ses heures plutôt que les journaux, laissant le monde aller son train et ne pensant qu'à mourir en paix. Comme elle était causeuse et même un peu bavarde, elle avait toujours eu depuis 20 ans qu'elle était veuve une demoiselle de compagnie. Cette demoiselle, qui ne la quittait jamais, était devenue pour elle une amie. On les voyait sans cesse toutes deux ensemble, à la messe, à la promenade, au coin du feu. Mademoiselle Ursule tenait les clés de la cave, des armoires et même du secrétaire. C'était une grande fille sèche, à tournure masculine, parlant du bout des lèvres, fort impérieuse et passablement acariâtre. Madame Doradour, qui n'était pas grande, se suspendait en babillant au bras de cette vilaine créature, l'appelait sa toute bonne, et se laissait mener à la lisière. Elle témoignait à sa favorite une confiance aveugle. Elle lui avait assuré d'avance une large part dans son testament. Mademoiselle Ursule ne l'ignorait pas. Aussi faisait-elle profession d'aimer sa maîtresse plus qu'elle-même, et n'en parlait-elle que les yeux au ciel avec des soupirs de reconnaissance. Il va sans dire que Mademoiselle Ursule était la véritable maîtresse du logis. Pendant que Madame Doradour, enfoncée dans sa chaise longue, tricotait dans un coin de son salon, Mademoiselle Ursule, affublée de ses clés, traversait majestueusement les corridors, tapait les portes, payait les marchands et faisait damner les domestiques. Mais dès qu'il était l'heure du dîner et dès que la compagnie arrivait, elle apparaissait avec timidité dans un vêtement foncé et modeste. Elle saluait avec componction, savait se tenir à l'écart et abdiquer en apparence. À l'église, personne ne priait plus dévotement qu'elle et ne baissait les yeux plus bas. Il arrivait à Madame Doradour, dont la piété était sincère, de s'endormir au milieu d'un sermon. Mademoiselle Ursule lui poussait le coude et le prédicateur lui en savait gré. Madame Doradour avait des fermiers, des locataires, des gens d'affaires, et Mademoiselle Ursule vérifiait leurs comptes, et en matière de chicane, elle se montrait incomparable. Il n'y avait pas, grâce à elle, un grain de poussière dans la maison. Tout était propre, net, frotté, brossé, les meubles en ordre, le linge blanc, la vaisselle luisante, les pendules réglées. Tout cela était nécessaire à la gouvernante pour qu'elle pût gronder à son aise et régner dans toute sa gloire. Madame Doradour ne se dissimulait pas, à proprement parler, les défauts de sa bonne amie, mais elle avait su de sa vie distinguer dans ce monde que le bien. Le mal ne lui semblait jamais clair. Elle l'endurait sans le comprendre. L'habitude, d'ailleurs, pouvait tout sur elle. Il y avait 20 ans que Mademoiselle Ursule lui donnait le bras et qu'elle prenait le matin leur café ensemble. Quand sa protégée criait trop fort, Madame Doradour quittait son tricot, levait la tête et demandait de sa petite voix flûtée « Qu'est-ce donc, ma toute bonne ?» Mais la toute bonne ne daignait pas toujours répondre. Ou, si elle entrait en explication, Elle s'y prenait de telle sorte que Madame de Radour revenait à son tricot en fredonnant un petit air, pour ne pas en entendre davantage. Il fut reconnu tout à coup, après une si longue confiance, que Mademoiselle Ursule trompait tout le monde, à commencer par sa maîtresse. Non seulement elle se faisait un revenu sur les dépenses qu'elle dirigeait, mais elle s'appropriait, par anticipation sur le testament, des hardes, du linge et jusqu'à des bijoux. Comme l'impunité l'enhardit, elle était enfin venue jusqu'à dérober un écrin de diamants, dont il est vrai Madame de Radour ne faisait aucun usage, mais qu'elle gardait avec respect dans un tiroir depuis un temps immémorial, en souvenir de ses appas perdus. Madame de Radour ne voulut point livrer aux tribunaux une femme qu'elle avait aimée. Elle se borna à la renvoyer de chez elle et refusa de la voir une dernière fois. Mais elle se trouva subitement dans une solitude si cruelle qu'elle versa les larmes les plus amères. Malgré sa piété, elle ne put s'empêcher de maudire l'instabilité des choses d'ici-bas et les incroyables caprices du hasard qui ne respectent pas même une vieille et douce erreur. Un de ses bons voisins, nommé M. Desprez, étant venu la voir pour la consoler, elle lui demanda conseil. « Mais que vais-je devenir à présent ?» lui dit-elle. « Je ne puis vivre seule. Où trouverai-je une nouvelle amie ? Celle que je viens de perdre m'a été si chère. Je m'étais si habituée que malgré la triste façon dont elle m'en a récompensée, j'en suis au regret de ne l'avoir plus. Qui me répondra d'une autre ? Quelle confiance pourrais-je maintenant avoir pour une inconnue ?» Le malheur qui vous est arrivé, reprit Monsieur Després, serait à jamais déplorable s'il faisait douter de la vertu une âme telle que la vôtre. Il y a dans ce monde des misérables et beaucoup d'hypocrites, mais il y a aussi d'honnêtes gens. Prenez une autre demoiselle de compagnie, non pas à la légère, mais sans y apporter non plus trop de scrupules. Votre confiance a été trompée une fois. C'est une raison pour qu'elle ne soit pas une seconde. « Je crois que vous dites vrai, répliqua Madame de Radour, mais je suis bien triste et bien embarrassée. Je ne connais pas une âme à Paris. Ne pourriez-vous me rendre le service de prendre quelques informations et de me trouver une honnête fille qui serait bien traitée ici et qui servirait, du moins, me donner le bras pour aller à Saint-François d'Assise ?» Monsieur Després, en sa qualité d'habitant du Marais, n'était ni fort ingambe, ni fort répandu. Il se vit cependant en quête, et quelques jours après, Madame de Radour eut une nouvelle demoiselle, à laquelle, au bout de 2 mois, elle avait donné toute son amitié, car elle était aussi légère qu'elle était bonne. Mais il fallut, au bout de 2 ou 3 mois, mettre la nouvelle venue à la porte, oh non comme malhonnête, mais comme peu honnête. Ce fut pour Madame de Radour un second sujet de chagrin. Elle voulut faire un nouveau choix, elle eut recours à tout le voisinage, s'adressa même aux petites affiches, et ne fut pas plus heureuse. Le découragement la prit, et on vit alors cette bonne dame s'appuyer sur une canne, se rendre seule à l'église. Elle avait résolu, disait-elle, d'achever ses jours sans l'aide de personne, et elle s'efforçait en public de porter gaiement sa tristesse et ses années. Mais ses jambes tremblaient en montant l'escalier, car elle avait 75 ans. On la trouvait le soir auprès du feu, les mains jointes et la tête basse. Elle ne pouvait pas supporter la solitude. Sa santé, déjà faible, s'altéra bientôt, et elle tombait peu à peu dans la mélancolie. Elle avait un fils unique, nommé Gaston, qui avait embrassé de bonne heure la carrière des armes, et qu'en ce moment était en garnison. Elle lui écrivit pour lui conter sa peine et pour le prier de venir à son secours, dans l'ennui où elle se trouvait. Gaston aimait tendrement sa mère. Il demanda un congé et l'obtint. Mais le lieu de sa garnison était par malheur la ville de Strasbourg, où se trouvent, comme on sait, en grande abondance les plus jolies grisettes de France. On ne voit que là de ces brunes allemandes, pleines à la fois de la langueur germanique et de la vivacité française. Gaston était dans les bonnes grâces de deux jolies marchandes de tabac qui ne voulurent pas le laisser s'en aller. Il tenta vainement de les persuader, il alla même jusqu'à leur montrer la lettre de sa mère. Et elles lui donnèrent tant de mauvaises raisons qu'il s'en laissa convaincre et retarda de jour en jour son départ. Madame de Radour, pendant ce temps-là, tomba sérieusement malade. Elle était née si gaie, et le chagrin lui était si peu naturel, qu'il ne pouvait être pour elle qu'une maladie. Les médecins n'y avaient que faire. « Laissez-moi, disait-elle, je veux mourir seule. Puisque tout ce que j'aimais m'a abandonné, pourquoi tiendrais-je un reste de vie auquel personne ne s'intéresse ?» La plus profonde tristesse régnait dans la maison, et en même temps le plus grand désordre. Les domestiques, voyant leur maîtresse moribonde et sachant son testament fait, commençaient à la négliger. L'appartement, jadis si bien entretenu, les meubles si bien rangés, étaient couverts de poussière. « Oh, ma chère Ursule !» s'écriait Madame de Radour. « Ma toute bonne, où êtes-vous? Vous me chasseriez ces marauds-là » Un jour qu'elle était au plus mal, on la vit avec étonnement se redresser tout à coup sur son séant, écarter ses rideaux et mettre ses lunettes. Elle tenait à la main une lettre qu'on venait de lui apporter et qu'elle déplia avec grand soin. Au haut de la feuille était une belle vignette représentant le temple de l'amitié avec un autel au milieu et deux cœurs enflammés sur l'autel. La lettre était écrite en grosse bâtarde, les mots parfaitement alignés, avec de grands traits de plume au queue des majuscules. C'était un compliment de bonne année, à peu près conçu en ces termes. « Madame et chère marraine, c'est pour vous la souhaiter bonne et heureuse que je prends la plume pour toute la famille, étant la seule qui sache écrire chez nous. Papa, maman et mes frères vous la souhaitent de même. Nous avons appris que vous étiez malade et nous prions Dieu qu'il vous conserve, ce qui arrivera sûrement. Je prends la liberté de vous envoyer ci-joint des rillettes et je suis avec bien du respect et de l'attachement votre filleule et servante Marguerite Piedbleu. » Après avoir lu cette lettre, Madame de Radour l'a mise sous son chevet. Elle fit aussitôt appeler M. Desprez et lui dicta sa réponse. Personne dans la maison n'en eut connaissance. Mais dès que cette réponse fut partie, la malade se montra plus tranquille et peu de jours après, on la trouva aussi gaie et aussi bien portante qu'elle l'avait jamais été. Le bonhomme Piedeleu était beauceron, c'est-à-dire natif de la Beauce, où il avait passé sa vie et où il comptait bien mourir. C'était un vieux et honnête fermier de la terre de la Ronville, près de Chartres, terre qui appartenait à Madame de Radour. Il n'avait vu de ses jours ni une forêt ni une montagne, car il n'avait jamais quitté sa ferme que pour aller à la ville ou aux environs, et la Beauce, comme on sait, n'est qu'une plaine. Il avait vu, il est vrai, une rivière, l'Eure, qui coulait près de sa maison. Pour ce qui est de la mer, il y croyait comme au paradis, c'est-à-dire qu'il pensait qu'il fallait y aller voir. Aussi ne trouvait-il en ce monde que trois choses dignes d'admiration, le clocher de Chartres, une belle fille et un beau champ de blé. Son érudition se bornait à savoir qu'il fait chaud en été, froid en hiver, et le prix des graines au dernier marché. Mais quand, par le soleil de midi, à l'heure où les laboureurs se reposent, Le bonhomme sortait de la basse-cour pour dire bonjour à ses moissons. Il faisait bon voir sa haute taille et ses larges épaules se dessiner sur l'horizon. Il semblait alors que les blés se tinssent plus droits et plus fiers que de coutume, que le soc des charrues fût plus étincelant. À sa vue, ses garçons de ferme couchés à l'ombre et en train de dîner se découvraient respectueusement, tout en avalant leurs belles tanges de pain et de fromage. Les bœufs ruminaient en bonne contenance, les chevaux se redressaient sous la main du maître qui frappait leurs croupes rebondies. « Notre pays est le grenier de la France !» disait quelquefois le bonhomme. Puis il penchait la tête en marchant, regardait ses sillons bien alignés et se perdait dans cette contemplation. Madame Piédeleu, sa femme, lui avait donné 9 enfants, dont 8 garçons, et si tous les 8 n'avaient pas 6 pieds de haut, il s'en fallait guère. Il est vrai que c'était la taille du bonhomme, et la mère avait ses 5 pieds et 5 pouces. C'était la plus belle femme du pays. Les 8 garçons, forts comme des taureaux, terreur et admiration du village, obéissaient en esclaves à leur père. Ils étaient, pour ainsi dire, les premiers et les plus zélés de ces domestiques, faisant tour à tour le métier de charretier, de laboureur, de batteurs en grange. C'était un beau spectacle que ces 8 gaillards, soit qu'on les vit, les manches retroussées, la fourche au poing, dresser une meule, soit qu'on les rencontra le dimanche allant à la messe, bras dessus, bras dessous, leur père marchant à leur tête, soit enfin que le soir, après le travail, on les vit assis autour de la longue table de la cuisine, devisés en mangeant la soupe et choqués en grinquant leur grand gobelet d'étain. Au milieu de cette famille de géants était venue au monde une petite créature, pleine de santé, mais toute mignonne. C'était le 9e enfant de Madame Piédeleu, Marguerite, qu'on appelait Margot. Sa tête ne venait pas aux 2 coudes de ses frères, et quand son père l'embrassait, il ne manquait jamais de l'enlever de terre et de la poser sur la table. La petite Margot n'avait pas 16 ans. Son nez retroussé, sa bouche bien fendue, bien garnie et toujours friante, son teint doré par le soleil, ses bras potelés, sa taille rondelette, lui donnaient l'air de la gaieté même. Aussi faisait-elle la joie de la famille. Assise au milieu de ses frères, elle brillait et réjouissait la vue, comme un bluet dans un bouquet de blé. « Je ne sais pas, ma foi, disait le bonhomme, comment ma femme s'y est prise pour me faire cet enfant-là. C'est un cadeau de la Providence, mais toujours est-il que ce brin de fillette me fera rire toute ma vie. » Margot dirigeait le ménage. La mère Piédeleu, bien qu'elle fût encore verte, lui en avait laissé le soin, afin de l'habituer de bonne heure à l'ordre et à l'économie. Margot serrait le linge et le vin, avait la haute main sur la vaisselle, qu'elle ne daignait pas laver. Mais elle mettait le couvert, versait à boire et chantait la chanson au dessert. Les servantes de la maison ne l'appelaient que Mademoiselle Marguerite, car elle avait un certain quant à soi. Du reste, comme disent les bonnes gens, elle était sage comme une image. Je ne veux pas dire qu'elle ne fut pas coquette. Elle était jeune, jolie et fille d'Ève. Mais il ne fallait pas qu'un garçon, même des plus huppés de l'endroit, s'avisât de lui serrer la taille trop fort. Il s'en serait pas bien trouvé. Le fils d'un fermier nommé Jarry, qui était ce qu'on appelle un mauvais gars, l'ayant embrassé un jour à la danse, avait été payé d'un bon soufflet. Monsieur le curé professait pour Margot la plus haute estime. Quand il avait un exemple à citer, c'était elle qu'il choisissait. Il lui fit même un jour l'honneur de parler d'elle en plein sermon et de la donner pour modèle à ses gouailles. Si le progrès des Lumières, comme on dit, n'avait pas fait supprimer les rosières, cette vieille et honnête coutume de nos aïeux, Margot eût porté les roses blanches, ce qui eût mieux valu qu'un sermon, mais ces messieurs de 89 ont supprimé bien autre chose. Margot savait coudre et même broder. Son père avait voulu en outre qu'elle sût lire et écrire et qu'elle apprît l'orthographe, un peu de grammaire et de géographie. Une religieuse carmélite s'était chargée de son éducation. Aussi Margot était-elle l'oracle de l'endroit. Dès qu'elle ouvra la bouche, les paysans s'ébahissaient. Elle leur disait que la terre était ronde, et ils l'en croyaient sur parole. On faisait cercle autour d'elle le dimanche lorsqu'elle dansait sur la pelouse, car elle avait eu un maître de danse et son pas de bourrée émerveillait tout le monde. En un mot, elle trouvait moyen d'être en même temps aimée et admirée, ce qui peut passer pour difficile. Le lecteur sait déjà que Margot était filleule de Madame de Radour et que c'était elle qui lui avait écrit sur un beau papier à vignette un compliment de bonne année. Cette lettre, qui n'avait pas 10 lignes, avait coûté à la petite fermière bien des réflexions et bien de la peine, car elle n'était pas forte en littérature. Quoi qu'il en soit, Madame de Radour, qui avait toujours beaucoup aimé Margot et qui la connaissait pour la plus honnête fille du pays, avait résolu de la demander à son père et d'en faire, s'il se pouvait, sa demoiselle de compagnie. Le bonhomme était un soir dans sa cour, fort occupé à regarder une eau neuve qu'on venait de remettre à une de ses charrettes. La mère Piédeleu, debout sous le hangar, tenait gravement avec une grosse pince le nez d'un taureau ombrageux pour l'empêcher de remuer pendant que le vétérinaire le pansait. Les garçons de ferme bouchonnaient les chevaux qui revenaient de l'abreuvoir. Les bestiaux commençaient à rentrer. Une majestueuse procession de vaches se dirigeait vers les tables au soleil couchant, et Margot, assise sur une botte de trèfle, disait un vieux numéro du journal de l'Empire que le curé lui avait prêté. Note. Ce paragraphe est la description exacte de l'intérieur de ferme que l'auteur avait vu en 1818 à l'âge de 7 ans et dont le tableau s'était gravé dans sa mémoire. Le curé lui-même parut en ce moment, s'approcha du bonhomme et lui remit une lettre de la part de Madame de Radour. Le bonhomme ouvrit la lettre avec respect, mais il n'en eut pas plutôt lu les premières lignes qu'il fut obligé de s'asseoir sur un banc tant il était ému et surpris. « Me demander ma fille » s'écria-t-il, « ma fille unique, ma pauvre Margot !» À ces mots, Madame Piédeleu, épouvantée, accourut. Les garçons, qui revenaient des champs, s'assemblèrent autour de leur père. Margot seule resta à l'écart, n'osant bouger ni respirer. Après les premières exclamations, toute la famille garda un morne silence. Le curé commença alors à parler, à énumérer tous les avantages que Margot trouverait à accepter la proposition de sa marraine. Madame de Radour avait rendu de grands services aux Piédeleu. Elle était leur bienfaitrice. Elle avait besoin de quelqu'un qui lui rendît la vie agréable, qui prît soin d'elle et de sa maison. Elle s'adressait avec confiance à ses fermiers. Elle ne manquerait pas de bien traiter sa filleule et d'assurer son avenir. Le bonhomme écouta le curé sans mot dire. Puis il demanda quelques jours pour réfléchir avant de prendre une détermination. Ce ne fut qu'au bout d'une semaine, après bien des hésitations et bien des larmes, qu'il fut résolu que Margot se mettrait en route pour Paris. La mère était inconsolable. Elle disait qu'il était honteux de faire de sa fille une servante, lorsqu'elle n'avait qu'à choisir parmi les plus beaux garçons du pays pour devenir une riche fermière. Les fils Piédeleu, pour la première fois de leur vie, ne pouvaient réussir à se mettre d'accord. Ils se querellaient toute la journée, les uns consentant, les autres refusant. Enfin, c'était un désordre et un chagrin inouï dans la maison. Mais le bonhomme se souvenait que, dans une mauvaise année, Madame de Radour, au lieu de lui demander son terme, lui avait envoyé un sac d'écus. Il imposa silence à tout le monde, et décida que sa fille partirait. Le jour du départ arrivé, on mit un cheval à la carriole afin de mener Margot à Chartres, où elle devait prendre la diligence. Personne n'alla au champ ce jour-là. Presque tout le village se rassembla dans la cour de la ferme. On avait fait à Margot un trousseau complet. Le dedans, le derrière et le dessus de la carriole étaient encombrés de boîtes et de cartons. Les pieds de l'eau n'entendaient pas que leur fille fût mauvaise figure à Paris. Margot avait fait ses adieux à tout le monde et allait embrasser son père, lorsque le curé la prit par la main et lui fit une allocution paternelle sur son voyage, sur la vie future et sur les dangers qu'elle allait courir. « Conservez votre sagesse, jeune fille !» s'écria le digne homme en terminant. « C'est le plus précieux des trésors. Veillez sur lui, Dieu fera le reste. » Le bonhomme Piédeleu était ému jusqu'aux larmes, quoiqu'il n'eût pas tout compris clairement dans le discours du curé. Il serra sa fille sur son cœur, l'embrassa, la quitta, revint à elle et l'embrassa encore. Il voulait parler et son trouble l'en empêchait. « Retiens bien les conseils de monsieur le curé, » dit-il enfin d'une voix altérée. « Retiens-les bien, ma pauvre enfant. » Puis il ajouta brusquement. « 1000 pipes de diable, n'y manque pas !» Le curé, qui étendait les mains pour donner à Margot sa bénédiction, s'arrêta court à ce gros mot. C'était pour vaincre son émotion que le bonhomme avait juré. Il tourna le dos au curé et rentra chez lui sans en dire davantage. Margot grimpa dans la carriole et le cheval allait partir lorsqu'on entendit un si gros sanglot que tout le monde se retourna. On aperçut alors un petit garçon de 14 ans à peu près, auquel on n'avait pas fait attention. Il s'appelait Pierrot, et son métier n'était pas bien noble, car il était gardeur de dindons, mais il aimait passionnément Margot, non pas d'amour, mais d'amitié. Margot aimait aussi ce pauvre petit diable. Elle lui avait donné maintes fois une poignée de cerises ou une grappe de raisin pour accompagner son pain sec. Comme il ne manquait pas d'intelligence, elle se plaisait à le faire causer et à lui apprendre le peu qu'elle savait. Et comme ils étaient tous deux presque du même âge, il était souvent arrivé que, la leçon finie, la maîtresse et l'écolier avaient joué ensemble à cligne-musette. En ce moment, Pierrot portait une paire de sabots que Margot lui avait donnés, ayant pitié de le voir marcher pieds nus. Debout dans un coin de la cour, entouré de son modeste troupeau, Pierrot regardait ses sabots et pleurait de tout son cœur. Margot lui fit signe d'approcher et lui tendit sa main. Il la prit et la porta à son visage, comme s'il eût voulu la baiser, mais il la posa sur ses yeux. Margot la retira toute baignée de larmes. Elle dit une dernière fois adieu à sa mère, et la carriole se mit en marche. Lorsque Margot monta en diligence à Chartres, l'idée de faire 20 lieues et de voir Paris la bouleversait à tel point qu'elle en avait perdu le boire et le manger. Toute désolée qu'elle était de quitter son pays, elle ne pouvait s'empêcher d'être curieuse, et elle avait si longtemps entendu parler de Paris comme d'une merveille qu'elle avait peine à s'imaginer qu'elle allait voir de ses yeux une si belle ville. Parmi ses compagnons de route se trouva un commis voyageur qui, selon les habitudes du métier, ne manqua pas de bavarder. Margot l'écoutait faire ses comptes avec une attention religieuse. Au peu de questions qu'elle hasarda, il vit combien elle était novice, et renchérissant sur lui-même, il fit de la capitale un portrait si extravagant et si empoulé qu'on aurait su à l'entendre s'il s'agissait de Paris ou de Pékin. Margot n'avait garde de le reprendre et, pour lui, il n'était pas homme à s'arrêter à la pensée qu'au premier pas qu'elle ferait, elle verrait qu'il avait menti. C'est en quoi on ne peut trop admirer le suprême attrait de la forfanterie. Je me souviens qu'allant en Italie, il m'en arriva autant qu'à Margot. Un de mes compagnons de voyage me fit une description de Gênes que j'allais voir. Il mentait sur le bateau qui nous y conduisait, il mentait en vue de la ville, et il mentait encore dans le port. Les voitures qui viennent de Chartres entrent à Paris par les Champs-Élysées. Je laisse à penser l'admiration d'une Beauceronne à l'aspect de cette magnifique entrée qui n'a pas sa pareille au monde et qu'on dirait faite pour recevoir un héros triomphant, maître du reste de l'univers. Les tranquilles et étroites rues du Marais parurent ensuite bien tristes à Margot. Cependant, quand son fiacre s'arrêta devant la porte de Madame de Radour, la belle apparence de la maison l'enchanta. Elle souleva le marteau d'une main tremblante et frappa avec une crainte mêlée de plaisir. Madame de Radour attendait sa filleule. Elle la reçut à bras ouverts, lui fit 1000 caresses, l'appela sa fille, l'installa dans une bergère et lui fit d'abord à souper. Étourdie du bruit de la route, Margot regardait les tapisseries. Les lambris et les meubles dorés, mais surtout les belles glaces qui décoraient le salon. Elle qui ne s'était jamais coiffée que dans le miroir à barbe de son père, il lui semblait charmant et prodigieux de voir son visage répété autour d'elle de tant de manières différentes. Le ton délicat et poli de sa marraine, ses expressions nobles et réservées, lui faisaient aussi une grande impression. Le costume même de la bonne dame, son ample robe de pou de soie à fleurs, son grand bonnet et ses cheveux poudrés, donnaient à penser à Margot et lui faisaient voir qu'elle se trouvait en face d'un être particulier. Comme elle avait l'esprit prompt et facile et en même temps se penchant à l'imitation qui est naturelle aux enfants, elle n'eut pas plutôt causé une heure avec Madame de Radour qu'elle essaya de se modeler sur elle. Elle se redressa, rajusta sa cornette et appela à son secours tout ce qu'elle savait de grammaire. Malheureusement, un peu de fort bon vin que sa marraine lui avait fait boire, pur, pour réparer la fatigue du voyage, avait embrouillé ses idées. Ses paupières se fermaient. Madame de Radour la prit par la main, la conduisit dans une belle chambre. Après quoi, l'ayant embrassée de nouveau, elle lui souhaita une bonne nuit et se retira. Presque aussitôt, on frappa à la porte. Une femme de chambre entra, débarrassa Margot de son châle et de son bonnet et se mit à genoux pour la déchausser. Margot dormait tout debout et se laissait faire. Ce ne fut que lorsqu'on lui ôta sa chemise qu'elle s'aperçut qu'on la déshabillait. Et sans réfléchir qu'elle était toute nue, elle fit un grand salut à sa femme de chambre, elle expédia ensuite sa prière du soir et se mit promptement au lit. À la lueur de sa veilleuse, elle vit que la chambre avait aussi des meubles dorés et qu'il s'y trouvait une de ces magnifiques glaces qui lui tenaient si fort au cœur. Au-dessus de cette glace était un trumeau, et les petits amours qui étaient sculptés lui parurent autant de bon génie qu'il invitait à se mirer. Elle se promit bien de n'y pas manquer, et, bercée par les plus doux songes, elle s'endormit délicieusement. On se lève de bonne heure au champ. Notre petite campagnarde s'éveilla le lendemain avec les oiseaux. Elle se mit sur son séant, et apercevant dans sa chair glace son joli minois chiffonné, elle s'honora d'un gracieux sourire. La femme de chambre reparut bientôt et demanda respectueusement si mademoiselle voulait prendre un bain. En même temps, elle lui posa sur les épaules une robe de flanelle écarlate qui parut à Margot la pourpre d'un roi. La salle de bain de Madame de Radour était un réduit plus mondain qu'il n'appartient à un bain de dévote. Elle avait été construite sous Louis XV. La baignoire, exhaussée sur une estrade, était placée dans un cintre de stuc encadrées de roses dorées, et les inévitables amours foisonnaient autour du plafond. Sur le panneau opposé à l'estrade, on voyait une copie des baigneuses de Boucher, copie faite peut-être par Boucher lui-même. Une guirlande de fleurs se jouait sur le lambris. Un tapis moelleux couvrait le parquet et un rideau de soie, galamment retroussé, laissait pénétrer à travers la persienne un demi-jour mystérieux. Il va sans dire que tout ce luxe était un peu fané par le temps et que les dorures avaient vieilli, mais par cette raison même, on s'y plaisait mieux et on s'y sentait comme un reste de parfum de ces 60 années de folie où régna le roi bien-aimé. Margot, seule dans cette salle, s'approcha timidement de l'estrade. Elle examina d'abord les griffons dorés placés de chaque côté de la baignoire. Elle n'osait entrer dans l'eau, qui lui semblait devoir, pour le moins, être de l'eau de rose. Elle y fourra doucement une jambe, puis l'autre, puis elle resta debout en contemplation devant le panneau. Elle n'était pas connaisseuse en peinture. Les nymphes de Boucher lui parurent des déesses. Elle n'imaginait pas que de pareilles femmes puissent exister sur la terre, qu'on pût manger avec des mains si blanches, ni marcher avec de si petits pieds. Que n'eût-elle pas donné pour être aussi belle? Elle ne se doutait pas qu'avec ses mains hâlées, elle valait cette fois bien mieux que ses poupées. Un léger mouvement du rideau l'attira de sa distraction. Elle frémit à l'idée d'être surprise ainsi et se plongea dans l'eau jusqu'au cou. Un sentiment de mollesse et de bien-être ne tarda pas à s'emparer d'elle. Elle commença, comme font les enfants, par jouer dans l'eau avec le coin de son peignoir. Elle s'amusa ensuite à compter les fleurs et les rosaces de la chambre. Puis elle examina les petits amours, mais leur gros ventre lui déplaisait. Elle appuya sa tête sur le bord de la baignoire et regarda par la fenêtre entr'ouverte. La salle de bain était au rez-de-chaussée et la fenêtre donnait sur le jardin. Ce n'était pas, comme on le pense bien, un jardin anglais, mais un antique jardin à la mode française qui en vaut bien une autre. De belles allées sablées bordées de buis, de grands parterres brillants de couleurs bien assorties, de jolies statues d'espace en espace et dans le fond un labyrinthe en charmille. Margot regardait le labyrinthe dont la sombre entrée la faisait rêver. La cligne musette lui revenait en mémoire, et elle pensait que dans les détours de la charmille, il devait y avoir de bonnes cachettes. Un beau jeune homme, en costume de hussard, sortit dans ce moment du labyrinthe et se dirigea vers la maison. Après avoir traversé le parterre, il passa si près de la fenêtre de la salle de bain que son cou ébranla la persienne. Margot ne put retenir un léger cri que la frayeur lui arracha. Le jeune homme s'arrêta, ouvrit la persienne et avança la tête. Il aperçut Margot dans son bain et, quoique hussard, il rougit. Margot rougit aussi et le jeune homme s'éloigna. Il y a, sous le soleil, une chose fâcheuse pour tout le monde, et particulièrement pour les petites filles. C'est que la sagesse est un travail, et que, pour être seulement raisonnable, il faut se donner beaucoup de mal, tandis que pour faire des sottises, il n'y a qu'à se laisser aller. Homère nous apprend que Sisyphe était le plus sage des mortels. Cependant, les poètes le condamnent uniquement à rouler une grosse roche au haut d'une montagne, d'où elle retombe aussitôt sur ce pauvre homme qui recommence à la rouler. Les commentateurs se sont épuisés à chercher la raison de ce supplice. Quant à moi, je ne doute pas que par cette belle allégorie, les anciens aient voulu représenter la sagesse. La sagesse est en effet une grosse pierre que nous roulons sans désemparer, et qui nous retombe sans cesse sur la tête. Notez que le jour où elle nous échappe, il ne nous est tenu aucun compte de l'avoir roulée pendant nombre d'années. Tandis qu'au contraire, si un fou vient à faire par hasard une action raisonnable, non, c'est un gré infini. La folie est bien loin d'être une pierre. C'est une bulle de savon qui s'en va dansant devant nous et se colorant comme l'arc-en-ciel de toutes les nuances de la création. Il arrive, il est vrai, que la bulle crève et nous envoie quelques gouttes d'eau dans les yeux. Mais aussitôt, il s'en forme une nouvelle et pour la maintenir en l'air, nous n'avons besoin que de respirer. Par ces réflexions philosophiques, je veux montrer qu'il n'est pas étonnant que Margot fût un peu amoureuse du jeune garçon qu'il avait aperçu dans son bain, et je veux dire aussi que pour cela on ne doit pas prendre mauvaise opinion d'elle. Lorsque l'amour se mêle de nos affaires, il n'a pas grand besoin qu'on l'aide, et on sait que lui fermer la porte n'est pas le moyen de l'empêcher d'entrer. Mais il entra ici par la croisée, et voici comment. Ce jeune garçon en habit de hussard n'était pas autre que Gaston, fils de Madame de Radour, qui s'était arraché non sans peine aux amourettes de sa garnison et qui venait d'arriver chez sa mère. Le ciel voulut que la chambre où logeait Margot fût à l'angle de la maison et que celle du jeune homme y fût aussi. C'est-à-dire que leurs deux croisées étaient presque en face l'une de l'autre et en même temps fort rapprochées. Margot dînait avec Madame de Radour et passait près d'elle l'après-midi jusqu'au souper. Mais de 7 heures du matin jusqu'à midi, elle restait dans sa chambre. Or Gaston, la plupart du temps, était dans la sienne à 7 heures-là. Margot n'avait donc rien de mieux à faire que de coudre près de la croisée et de regarder son voisin. Le voisinage a de tout temps causé de grands malheurs. Il n'y a rien de si dangereux qu'une jolie voisine. Fût-elle laide, je ne m'y fierais pas, car à force de la voir sans cesse, il arrive tôt ou tard un jour où l'on finit par la trouver jolie. Gaston avait un petit miroir rond accroché à sa fenêtre, selon la coutume des garçons. Devant ce miroir, il se rasait, se peignait, mettait sa cravate. Margot remarqua qu'il avait de beaux cheveux blonds qui frisaient naturellement, et cela fut cause qu'elle acheta d'abord un flacon d'huile à la violette et qu'elle prit soin que les deux petits bandeaux de cheveux noirs qui sortaient de son bonnet fussent toujours bien lisses et bien brillants. Elle s'aperçut enfin que Gaston avait de jolies cravates et qu'il les changeait fort souvent. Elle fit en plaide d'une douzaine de foulards, les plus beaux qu'il y eut dans tout le marais. Gaston avait en outre cette habitude qui indigne si fort le philosophe de Genève et qui le brouilla avec son ami Grimm. Il se faisait les ongles, comme dit Rousseau, avec un instrument fait exprès. Margot n'était pas un si grand philosophe que Rousseau. Au lieu de s'indigner, elle acheta une brosse et, pour cacher sa main, qui était un peu rouge, comme je l'ai déjà dit, elle prit des mitaines noires qui ne faisaient voir que le bout de ses doigts. Gaston avait encore bien d'autres belles choses que Margot ne pouvait imiter, par exemple un pantalon rouge et une veste bleue de ciel avec des tresses noires. Margot possédait, il est vrai, une robe de chambre de flanelle écarlate. Mais que répondre à la veste bleue? Elle prétendit avoir mal à l'oreille et elle se fit pour le matin une petite toque de velours bleu. Ayant aperçu au chevet de Gaston le portrait de Napoléon, elle voulut avoir celui de Joséphine. Enfin, Gaston ayant dit un jour à déjeuner qu'il aimait assez une bonne omelette, Margot vainquit sa timidité et fit un acte de courage. Elle déclara que personne au monde ne savait faire les omelettes comme elle, que ses parents les faisaient toujours et qu'elle suppliait sa marraine d'en goûter une de sa main. Ainsi tâchait la pauvre enfant de témoigner son modeste amour. Mais Gaston n'y prenait pas garde. Comment un jeune homme hardi, fier, habitué aux plaisirs bruyants et à la vie de garnison, aurait-il remarqué ce manège enfantin? Les grisettes de Strasbourg s'y prennent d'autre manière lorsqu'elles ont un caprice en tête. Gaston dînait avec sa mère, puis sortait pour toute la soirée, et comme Margot ne pouvait dormir qu'il ne fût rentré, elle l'attendait derrière son rideau. Il arriva bien quelquefois que le jeune homme, voyant de la lumière chez elle, se dit en traversant la cour « Tiens, pourquoi cette petite fille n'est-elle pas couchée ?» Il arriva encore qu'en faisant sa toilette, il jeta sur Margot un coup d'œil distrait qui la pénétrait jusqu'à l'âme. Mais elle détournait la tête aussitôt. Elle serait plutôt morte que d'oser soutenir ce regard. Il faut dire aussi qu'au salon, elle ne se montrait plus la même. Assise auprès de sa marraine, elle s'étudiait à paraître grave, réservée, et à écouter décemment le babillage de Madame de Radour. Quand Gaston lui adressait la parole, elle lui répondait de son mieux. Mais, ce qui semblera singulier, elle lui répondait presque sans émotion. Expliquera qui pourra ce qui se passe dans une cervelle de 15 ans. L'amour de Margot était pour ainsi dire enfermé dans sa chambre. Elle le trouvait dès qu'elle y entrait, et elle l'y laissait en sortant. Mais elle ôtait la clé de sa porte pour que personne ne pût en son absence profaner son petit sanctuaire. Il est facile du reste de supposer que la présence de Madame de Radour devait la rendre circonspecte et l'obliger à réfléchir, car cette présence lui rappelait sans cesse la distance qui la séparait de Gaston. Une autre que Margot s'en serait peut-être désespérée, ou plutôt se serait guérie, voyant le danger de sa passion. Mais Margot ne s'était jamais demandé, même dans le plus profond de son cœur, à quoi lui servirait son amour. Et en effet, y a-t-il une question plus vide de sens que celle-là, qu'on adresse continuellement aux amoureux? À quoi cela vous mènera-t-il? Eh, bonnes gens, mais cela me mène à aimer. Dès que Margot s'éveillait, elle sautait à bas de son lit, elle courait pieds nus en cornette, écartait le coin de son rideau pour voir si Gaston avait ouvert ses jalousies. Si les jalousies étaient fermées, elle allait vite se recoucher, et elle guettait l'instant où elle entendrait le bruit de l'espagnolette, auquel elle ne se trompait pas. Cet instant venu, elle mettait ses pantoufles et sa robe de chambre, ouvrait à son tour sa croisée, et penchait la tête de côté et d'autre d'un air endormi, comme pour regarder quel temps il faisait. Elle poussait ensuite en débattant dans la fenêtre de manière à n'être vue que de Gaston, puis elle posait son miroir sur une petite table et commençait à peigner ses beaux cheveux. Elle ne savait pas qu'une vraie coquette se montre quand elle est parée, mais ne se laisse pas voir pendant qu'elle se pavare. Comme Gaston se coiffait devant elle se coiffait devant lui. Masquée par son miroir, elle hasardait de timides coups d'œil, prête à baisser les yeux si Gaston la regardait. Quand ses cheveux étaient bien peignés et retroussés, elle posait sur sa tête son petit bonnet de tulle borné à la paysanne qu'elle n'avait pas voulu quitter. Ce petit bonnet était toujours tout blanc, ainsi que le grand collet abattu qui lui couvrait les épaules et lui donnait un peu l'air d'une nonnette. Elle restait alors les bras nus, en jupon court, attendant son café. Bientôt paraissait Mademoiselle Pélagie, sa femme de chambre, portant un plateau escorté du chat du logis, meuble indispensable au marais, qui ne manquait jamais le matin de rendre ses devoirs à Margot. Il jouissait alors du privilège de s'établir dans une bergère en face d'elle et de partager son déjeuner. Ce n'était pour elle, comme on pense, qu'un prétexte de coquetterie. Le chat, qui était vieux et gâté, roulé en boule dans un fauteuil, recevait fort gravement des baisers qui ne lui étaient pas adressés. Margot le glaçait, le prenait dans ses bras, le jetait sur son lit, tantôt le caressait, tantôt l'irritait. Depuis 10 ans qu'il était de la maison, il ne s'était jamais vu à pareille fête. Et il ne s'en trouvait pas précisément satisfait. Mais il prenait le tout en patience, étant au fond d'un bon naturel, ayant beaucoup d'amitié pour Margot. Le café pris, elle s'approchait de nouveau de la fenêtre, regardait encore un peu s'il faisait beau temps, puis elle poussait le battant resté ouvert, mais sans le fermer tout à fait. Pour qui aurait eu l'instinct du chasseur, c'était alors le temps de se mettre à l'affût. Margot achevait sa toilette et, veux-je dire qu'elle se montrait? Oh non pas! Elle mourait de peur d'être vue et d'envie de se laisser voir. Et Margot était une fille sage? Oui, sage, honnête et innocente. Et que faisait-elle? Elle se chaussait, mettait son jupon et sa robe, et de temps en temps, par la fente de la fenêtre, on aurait pu la voir allonger le bras pour prendre une épingle sur la table. Et qu'eût-elle fait si on eût guetté? Elle aurait sur-le-champ fermé sa croisée. Alors pourquoi donc la laisser entr'ouverte? Demandez-le-lui, je n'en sais rien. Les choses en étaient là lorsqu'un certain jour, Madame Doradour et son fils eurent un long entretien tête à tête. Il s'établit entre eux un air de mystère et ils se parlaient souvent à mots couverts. Peu de temps après, Madame Doradour dit à Margot: Ma chère enfant, tu vas revoir ta mère. Nous passerons l'automne à la Honville.